Déjà dimanche 28 janvier, fête de Saint Thomas d'Aquin. Bonsoir chers auditeurs et bienvenue à Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Retrouvez toute notre actualité sur le site Marie de Nazareth et 1000rcinfo.com. Bonjour Justina.
Bonjour.
Vous défendez le droit à la théologie. Nous allons donc en parler dans un instant.
Oui, tout à fait.
Nous poursuivrons notre cycle avec Marie qui défait les nœuds. Je dirais même que nous terminerons en beauté parce que j'ai l'honneur d'accueillir Isabelle Roland, auteure et spécialiste de Marie qui défait les nœuds, grande amie du père Céléro. Bonjour Isabelle.
Bonjour France.
Alors Justina, vous voulez nous rappeler aujourd'hui comment lire la Bible, comment défendre le droit à la théologie. Et donc voilà, vous avez quelque chose de très particulier à nous dire.
Oui, tout à fait. Puisque la semaine dernière, j'ai fait peur à tout le monde avec la complexité de la lecture de la Bible. Maintenant, je pense qu'il est tout à fait naturel de défendre le droit quand même de la lire et de faire de la théologie. Donc, est-ce que la grande question d'aujourd'hui serait, est-ce que nous avons reconnu qu'on est subjectif, qu'on est tout lecteur est toujours co-auteur du texte? Mais est-ce que ma subjectivité est une raison de tout arrêter, refuser toute démarche intellectuelle, et puisque je suis limitée par moi-même, et puis aller danser, pourquoi pas? Vous savez, dans la tradition bouddhiste, il y a une parabole. Un roi a acheté un éléphant, et son savant de cour, pour démontrer au roi la subjectivité de toute recherche, a fait venir trois aveugles et leur a demandé de définir de qu'est-ce que c'est qu'un éléphant. Le premier a attrapé la trompe de l'éléphant et il a dit que l'éléphant est semblable à un serpent. Le second a attrapé l'oreille et déclara que l'éléphant est semblable à une feuille de bardane. Le troisième a touché la queue et a dit que l'éléphant est semblable à une liane. Dans le cadre du bouddhisme, cette parabole est moqueuse et sert à démontrer que tous les chercheurs aveugles ont tort, comme quoi tous les clercs, toutes les religions ont tort. Et aujourd'hui, au contraire, les personnes de mentalité New Age s'en servent pour dire que toutes les religions sont vraies et ont raison, mais chacune n'attrape qu'une partie de l'éléphant qui symbolise Dieu dans cette histoire.
Oui, c'est une belle analogie.
Oui, c'est une très très belle image et elle serait même fonctionnelle dans un seul cas. Si Dieu est muet comme un éléphant. Mais qui a dit que Dieu est muet? Il a peut-être parlé. Et par conséquent, je ne suis pas aveugle, mais juste très myope. Ou presbyte. Qu'en sais-je? Si je suis croyante chrétienne, donc je ne suis pas totalement aveugle, et je suppose que Dieu a déjà parlé, je serai juste myope et je ne comprends pas tout. Puisque j'ai mes lunettes pour lire, mes lunettes de la tradition, de l'exégèse, des pères de l'Église, de la méthode historique et critique, je peux faire tout le nécessaire pour qu'il soit adapté à ma vue, qui a certes besoin de correction. J'ai donc le droit de faire de la théologie, car malgré ma subjectivité, il y a quelque chose d'objectif que je peux, ne serait-ce que d'essayer d'étudier. René Descartes a eu une réflexion semblable quand il devait passer une nuit dans un village dévasté pendant son service militaire. Il a choisi de dormir dans un poêle, tout ce qui est resté d'une maison détruite.
Oui.
Les murs étaient chauds et le protégeaient des coups de vent. À l'intérieur, il faisait noir, donc il était à l'abri de la lumière. Donc, on peut dire qu'il s'est retrouvé dans un équivalent d'une cellule de privation sensorielle. C'est là où il a déduit son fameux « cogito ergo sum »,« je pense donc je suis ». Il se pose la même question, « mes sens peuvent-ils me mentir ?»
C'est ça.
Oui. Mais suis-je certaine de ma propre existence? Non. Mes sens me disent que oui, mais mes sens peuvent me tromper.
Bien sûr.
Est-ce que je peux toujours inévitablement me tromper? Et là, si je peux me permettre, il me semble que Descartes fait une erreur de logique, mais une belle erreur, puisque il se dit lui-même « je suis malgré tout créé à l'image de Dieu, et Dieu est amour ». Là, il sort de la logique formelle d'Aristote. Mmh. Et puisque Dieu est amour, je ne peux pas que me tromper. Je pense, donc je suis. Effectivement, c'est l'idée, même dans Dieu biblique, qui nous donne le droit de faire de la théologie. Car certes, nous pouvons nous tromper, mais pas tout le temps. Et donc, nous pouvons essayer de faire au mieux avec ce que nous avons. Il nous fait confiance. Dieu s'est fait homme. L'écriture est divino-humaine. Donc, elle est écrite par des humains, mais avec une inspiration divine. Et nous avons le droit à l'erreur et nous avons une certaine confiance de Dieu. C'est la composition de nos textes qui nous le dit. C'est en ayant justement la conscience de toute la complexité de la démarche que la théologie chrétienne se développe au fil des siècles. C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire de réinventer la roue, mais qu'on peut se servir de la méthodologie qui a fait ses preuves. Et c'est alors que nous pouvons passer maintenant à l'apologétique qui vise soit à défendre notre droit à avoir nos convictions, soit à riposter si quelqu'un cherche à nous manipuler en se servant de nos convictions. C'est finalement comme aller se chercher une bonne paire de lunettes afin de corriger sa vue et vivre sa vie. C'est un droit, voire un devoir.
Alors, Justina, donc vous avez bien défendu votre manière d'aborder et d'interpréter. Merci beaucoup. Donc la semaine prochaine, nous parlerons de...
De la première grande question d'apologétique qui fâche, s'il n'y a qu'un Dieu, pourquoi il existe plusieurs religions?
Alors ça, c'est une phrase qu'on entend très très souvent.
Oui.
Et vous serez très heureuse de développer.
Développer? Pas totalement. Quand les questions servent à nous piéger, ce n'est pas la peine de répondre à ces questions. Il faut en sortir, vous savez, comme les isolonistes me font, c'est, voilà, on est attaché. Il faut s'en sortir à quelques secondes près. Quand on est dans un domaine apologétique, on n'est plus dans l'argumentation scolastique. On a le droit de faire des pirouettes. Et je ferai une pirouette.
Chouette. Très bien. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, nous allons écouter à présent ce très beau chant intitulé « Notre-Dame de la prière » de l'album « Sous ton voile de tendresse »« Chant à Marie » par Emmanuel Music.
Je suis votre maman du ciel, approchez, embrassez ma main et chantez le Magnificat, donnez votre main, je veux l'embrasser et chantez le Magnificat, donnez votre main, je veux l'embrasser. Pour la France, aux familles, je donnerai beaucoup.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Rebonjour Isabelle Roland.
Bonjour.
C'est une joie de vous accueillir, comme je disais, parce que vous êtes notre encyclopédie Marie qui défait les nœuds. Vous avez écrit aux éditions MDN Productions un livret missionnaire intitulé « Marie qui défait les nœuds, d'un tableau à une dévotion », ainsi qu'une neuvaine qui vient de sortir pour les couples en difficulté. Quand je dis difficulté, cela entend un spectre large, incompréhension, souci de fécondité, mésentente sur l'éducation des enfants. Voilà, il y a de nombreux sujets de discorde. Vous alimentez et faites vivre le blog et le site de Marie qui défait les nœuds que l'on peut consulter en allant sur le site mariedenazareth.com où vous trouverez l'onglet justement Marie qui défait les nœuds. Alors si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour que nous puissions non pas parler de cette dévotion que chacun commence à connaître maintenant parce que c'est un petit peu mon dada, on en parle assez souvent à Magnificat, mais voilà... J'aimerais, s'il vous plaît, que vous nous livriez des témoignages de personnes qui ont été exaucées, comme nous avions Gisèle la semaine dernière. Voilà, mais parlez-nous tout d'abord quand même un petit peu du tableau, voilà, qui est comme un ex-voto.
Oui, absolument. Alors, donc ce tableau, comme on le sait, a été fait par le petit-fils du couple qui a eu ce miracle conjugal. Mmh. Et donc, c'est assez touchant puisque ces remerciements sont passés dans un cadre familial, dans la filiation. Ce tableau permet de voir toute la fécondité spirituelle que peut engendrer un témoignage, un remerciement face à une grâce exaucée. Et donc la logique de l'ex-voto, c'est donc la demande, l'exaucement et le remerciement, les trois étant liés intimement. Et entre l'exaucement et le remerciement, il y a la prise de conscience de la grâce qui a été accordée et un sentiment de gratitude qui peut s'exprimer ensuite d'une façon ou d'une autre. Ouais. Donc, je trouve que ce tableau est très intéressant de ce point de vue-là, parce que ce tableau a été fait aux alentours de 1700 en Bavière, dans une petite église, par un chanoine qui, même s'il était illustre, était quand même dans son petit coin. Mm-hmm. Et il a donné lieu à une dévotion qui est mondialement reconnue et qui est soutenue par le travail des artistes, par le travail aussi des personnes qu'il a pris. Donc c'est toute une espèce de chaîne magnifique qui se crée autour de ce miracle, voilà, qui a eu lieu quelque part en la fin du XVIIe siècle.
Oui. Alors ce tableau, si je vous comprends bien, il nous aide à prier et il nous aide à remercier.
Oui, absolument.
C'est quand même magnifique.
Oui, absolument, absolument. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce tableau, c'est que il a vraiment une dramaturgie de la lumière. Donc, il y a cette partie sombre dans le bas du tableau et qui va vers la lumière. Et c'est un peu comme la caverne de Platon, c'est-à-dire qu'on passe des ténèbres sans Dieu à cette révélation progressive de la lumière. Et la Vierge au milieu comme médiatrice, c'est comme... voilà.
Alors, partagez-nous des témoignages. Voilà, il y en a qui sont très très forts. Lorsque nous préparions cette émission, nous nous rappelions ce que je vous avais dit, chers auditeurs, déjà à deux reprises. C'est une neuvaine qui est souvent exaucée avant la fin de la neuvaine, ça c'est quand même assez extraordinaire. Et voilà, les témoignages sont très touchants, vous les récoltez. Du reste, si vous-même vous avez des témoignages à nous partager, nous serions très heureux de les avoir. Voilà, vous nous écrivez à magnificat@mariedenazareth.com. Nous serions très heureux de les lire et si vous l'acceptez, de les partager, peut-être pas sous votre nom. Je comprends très bien que vous souhaitiez rester anonyme, mais voilà. Parfois, les gens sont motivés, parce que ce n'est pas toujours une neuvaine facile à prier, mais motivés de savoir que nombreux ont été ceux qui ont été exaucés. Alors, Isabelle.
Alors, avant de présenter quelques témoignages, je voulais dire que la puissance de cette neuvaine à Marie qui défait les nœuds, à mon avis, s'enracine dans de pôles, oui. C'est-à-dire d'une part le fait que c'est une neuvaine, donc qui s'enracine dans la tradition de la neuvaine telle qu'elle a été faite entre par les apôtres, entre l'ascension du Christ et la
Pentecôte.
Donc déjà, il y a cette puissance de la neuvaine et il y a le chapelet qui est prié à l'intérieur de cette neuvaine. Donc ces deux pôles qui sont extrêmement importants, à mon avis, donnent cette puissance. Et on a eu récemment un exorciste italien qui a dit que il avait, en délivrant quelqu'un, oui. Il lui avait demandé... le démon à travers cette personne a dit qu'il détestait les neuvaines et en particulier celle de Marie qui défait les nœuds. Donc on a aussi une confirmation.
On a un audio, je crois.
Hein oui, oui, oui.
Ah, il existe un audio de ce dont vous nous parlez.
Alors oui. Aussi, ce qui est très intéressant dans cette neuvaine, c'est qu'elle est priée par tout le monde. C'est-à-dire que il y a beaucoup de petites gens qui prient cette neuvaine et puis d'autres, voilà. Et donc les témoignages sont très divers. Il y en a qui sont très touchants, qui sont très simples, qui parlent de merci maman Marie, enfin, oui. Vraiment qui sont vraiment simples, quoi. Et d'autres qui parlent de leur admiration, puisque cette neuvaine, est, comme vous disiez, est très puissante.
Oui.
Et que dès le troisième jour, souvent, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, c'est très étonnant. Il semble que la Vierge Marie aime cette neuvaine et aime y répondre rapidement.
Mais comme elle n'est pas très facile, elle est assez ardue,
oui.
Quand même. Hein.
Oui.
Il faut reconnaître qu'on ne la fait pas en 5 minutes.
Oui, tout à fait. Et puis parfois, il faut plusieurs neuvaines. Donc, comme s'il y
avait
besoin
de... Alors ça, oui. Je voulais en parler à la fin. Mais oui, puisque vous l'abordez, déjà, on ne voit pas forcément les fruits dès la première neuvaine.
Oui.
Mais oui, parfois, il faut plusieurs...
Et puis parfois, j'ai eu un témoignage très amusant où une personne disait, j'ai prié la neuvaine pour telle intention et il m'en est arrivé une autre grâce.
Oui. Ah, oui.
Et elle a vraiment relié les deux en disant mais... Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça montre aussi que Dieu nous exauce dans ce qui est bon pour nous. Mmh. Voilà. Et
voilà, alors, livrez-nous ces témoignages.
Alors, donc, je voulais aussi dire que ces témoignages nous parlent des liens familiaux parce que les neuvaines sont souvent faites par les grands-parents ou les parents pour leurs enfants ou pour leurs petits-enfants. Et donc, ce sont des prières de demande, bien sûr, qu'on appelle d'impétration, mais qui sont aussi des prières d'intercession, justement. Et donc, les grâces reçues sont souvent des grâces d'intercession. Et ça, je tenais vraiment à le souligner parce que c'est très fréquent dans les témoignages que j'ai eu l'occasion de traiter. Voilà. Donc, quelques témoignages marquants. Donc, déjà une personne qui avait... je vais vous le lire carrément parce que je trouve que c'est sympa.
Comme ça, on a le témoignage vrai.
« Merci Seigneur et merci Marie pour votre intercession, car je ne suis plus addicte à la pornographie. J'ai regardé des films pornographiques pendant 8 ans. Tenté d'arrêter de nombreuses fois sans succès, puis j'ai fait cette neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Depuis la fin de la neuvaine, il y a plus d'un an, je n'ai pas regardé de film pornographique. Merci Marie.
Oui. »
Donc ça, c'était vraiment tout cet esclavage des addictions, hein, qui a été résolu dans cette neuvaine. Il y a aussi un témoignage que j'aime bien, qui était une personne qui avait perdu la foi, enfin, et qui dit « Depuis que je prie avec la neuvaine Marie qui défait les nœuds, je me sens proche de la Sainte Vierge et de Jésus, et plus désireuse de les aimer. J'ai retrouvé espérance et même de la joie, moi qui n'étais que désespoir et tristesse. Et je vais continuer à prier. Merci Marie. » Ça, c'est aussi très, très touchant, parce que ça, ce sont vraiment des grâces spirituelles.
Oui.
Et puis, une mamie qui témoigne. Donc, depuis 4 ans, mes enfants n'arrivaient pas à vendre leur maison. J'ai récité la neuvaine à Marie qui défait les nœuds avec foi, amour et confiance. Quelques jours après, une personne a acheté la maison de mes enfants. Et je leur ai dit, j'ai fait une neuvaine à Marie qui défait les nœuds en demandant à Marie de défaire le nœud. Elle m'a écoutée, mes enfants, et je suis heureuse grâce à Marie de vous voir enfin soulagée. Et elle termine en disant, je loue Marie en prière matin et soir, et je la remercie pour toute la bonté qu'elle a eue pour mes enfants. Donc voilà un exemple de grâce d'intercession. Et puis, il y en a un que j'aime bien, c'est une personne qui n'a pas voulu témoigner vraiment de façon précise de ce qu'elle a eu, mais qui a écrit un poème. Et donc, j'en lis juste une petite partie. C'est une dame qui s'appelle Nadine Kouamelan et qui est d'Abidjan. Donc, pour toi, maman Marie, Par ces mots, Vierge Immaculée, reçois ma reconnaissance d'âme magnanime. Par ces mots, splendeur étoilée, je veux te dire, et avec moi l'Église unanime, combien de fois tu comptes pour nous, combien de fois nous espérons en tes intercessions. Marie, maman chérie, de ton manteau si doux, réchauffe nos corps, apaise nos cœurs, nous t'en prions. Par Jésus le Christ notre Seigneur, amen, avec tout mon amour.
Oh, c'est magnifique. Donc,
c'est incroyable, hein, c'est vraiment, là, et c'est ça qui est super dans cette dévotion, c'est qu'elle donne lieu à des œuvres d'art. J'ai eu aussi une iconographe qui est venue me voir, qui m'a téléphoné, qui m'a dit, j'ai reçu dans mon cœur, je veux faire une icône, Marie qui défait les nœuds.
Voilà. Ah oui.
Donc, je ne sais pas si elle va le faire, mais oui, elle va sans doute l'écrire dans la prière et voilà.
Oui, oui, très bien. Alors, nous pouvons demander tout à la Vierge Marie, nous le savons bien. Il existe des neuvaines à thème, donc je parlais de celle pour les couples. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous l'avez abordée, cette neuvaine? Parce que des demandes de couples, c'est quand même assez multiple.
Oui.
Comment faire pour que tout le monde se sente concerné?
Alors déjà, moi j'étais partie dans l'idée qu'il fallait un petit peu se décentrer de son nœud, c'est-à-dire souvent les gens sont collés à leur demande et n'arrivent pas à entrer dans une autre... Donc en fait j'ai fait cette neuvaine en priant le chapelet, et donc elle est vraiment centrée sur le chapelet. Et surtout j'ai mis tout le catalogue, on va dire, des nœuds qu'on peut avoir avant, pour que les gens fassent un discernement avant d'effectuer la neuvaine, fasse un choix dans le nœud qui leur paraissait le plus important.
En fait, si je vous comprends bien, il faut choisir un seul nœud.
Oui, donc, absolument. D'accord. Ça, c'est très important.
Et ne pas... voilà. Donc, on fera une seconde neuvaine pour le deuxième
nœud.
Et,
absolument. Et d'ailleurs, Saint-Irénée dit que c'est très intéressant. Il parle du nœud de la désobéissance noué par Ève et puis dénoué par Marie. Et il dit que la meilleure manière pour dénouer ce nœud, c'est de faire repasser le nœud par l'endroit où il est passé. Donc, c'est très concret.
En fait, c'est ça.
Et c'est vrai qu'il faut travailler nœud après nœud sur cette corde de notre vie.
Voilà. D'accord. Et donc, là, pour les couples, vous conseillez de discerner le nœud.
Voilà.
Et puis après...
Après, de se laisser prendre, voilà, dans la neuvaine. C'est une aventure spirituelle.
Oui, oui, oui. Très bien. Merci beaucoup. Alors, nous avons aussi des neuvaines qui concernent la famille, parce qu'il peut y avoir des tensions dans les familles. Des neuvaines sur la maladie. Et puis sur le travail. Mais ce sont davantage des neuvaines si on n'arrive pas soi-même à trouver les mots justes pour notre demande. Mais voilà, toute neuvaine, même sans thème, on laisse parler son cœur. Et puis,
absolument,
oui,
absolument.
Très bien. Oui, et merci, vous vouliez dire.
C'est fini.
Allez-y.
Je voulais juste dire que... la gratitude est un sentiment et qu'il faut passer de ce sentiment à une action. Donc le témoignage est la concrétisation de ce sentiment.
Oui.
Et c'est très important parce que c'est une prise de conscience que quelque chose de bon nous est arrivé après notre prière, de la bonté de Dieu. Et que voilà, il y a différentes formes de gratitude, mais bon, celle du témoignage est importante.
Oui.
Elle enrichit notre relation à Dieu et à la Vierge Marie. Elle produit la joie et chasse la crainte. Et au plan communautaire, témoignage fait preuve de solidarité humaine, car il incite celui qui le lit à retrouver de l'espoir, voire à prier à son tour, Marie qui défait les nœuds. Et donc, il s'agit d'une charité sociale, comme disait le...
Donc, il faut se détacher de cette pudeur pour pouvoir témoigner. Et ainsi, pour certains, c'est peut-être difficile. Donc, le remerciement passe par ce témoignage. Donc.
Oui, et s'inscrire dans la grande famille de Dieu.
D'accord, très bien. Je vous propose donc, chers auditeurs, aux 30 premiers qui nous écriront à magnificat@mariedenazareth.com de vous offrir deux neuvaines à Marie qui défait les nœuds chacun, donc aux 30 premiers. Je poursuis ma distribution. Alors, vous vous dites peut-être, France distribue très régulièrement des dizaines et des dizaines de neuvaines. Je voudrais préciser que nous avons eu la joie d'avoir un donateur qui a été exaucé par la Vierge Marie. Et justement, en action de grâce, il nous a offert l'impression d'un très grand nombre de neuvaines à offrir. Voilà. Petite annonce, tous les jours depuis 3 ans, rendez-vous à 15h pour prier le chapelet au pied du calvaire situé au chevet de l'église Saint-Antoine du Chesnay, dans l'esprit de la France prie. Voilà, bah écoutez, chers auditeurs, nous terminons notre mois de janvier avec Marie qui défait les nœuds. Et merci encore Isabelle d'être venue.
Merci à France.
Et Justina, en forme pour la semaine prochaine?
Oui, tout à fait.
Très bien, merci. Au revoir.